Bonjour, merci d'être là, très nombreux pour ce sujet essentiel et passionnant. Beaucoup connaissent déjà Elsa, mais pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, Elsa, tu es docteur en géologie sédimentaire, tu es ingénieure de recherche à l'Université de Nantes, tu es copilote des projets Odysseieux, Odyssée-Île et désormais également OMICI qui vient de commencer. OMICI pour observation mixte science et société avec IE pour le Y. Projet de recherche collaborative qui rassemble les insulaires des îles de Mayotte, de Noirmoutier, d'Ouvéa et de IE pour préparer ces îles face au changement climatique et la montée du niveau marin. C'est un vaste et ambitieux programme, d'autant qu'il fédère des lieux qui n'ont a priori et à première vue rien d'autre de commun que d'être des îles. Tu es Elsa, tu es ilaise, tu connais lieux dans ses moindres détails, tu es soucieuse de donner aux insulaires des clés pour prendre conscience et contribuer à agir localement. Alors, le titre de cette séance aujourd'hui, c'est « Comment préparer l'île Dieu au changement climatique ?» C'est-à-dire, comment se préparer face aux problématiques environnementales de demain sur l'île Dieu ? Quels leviers, quelles actions, quels acteurs et à quelles échelles ? C'est beaucoup de questions, mais on va y revenir. Mais d'abord, prenons quelques instants pour d'abord peut-être déterminer et expliquer la boîte à outils et la méthode qui servent déjà à accompagner, à diagnostiquer et à formuler des réponses. Dans un deuxième temps, on regardera de près ce que veut dire changement climatique et puis il y aura un temps pour les questions à la fin avant de se séparer. Donc Elsa, en premier, le projet fondateur, c'est Odysseieux.
Effectivement, donc bonjour à tous et merci Maya, merci Arnaud pour votre invitation. Donc effectivement, le projet fondateur c'est Odysseieux, donc qui a commencé en 2018 et qui depuis en fait s'est transformé en un programme de recherche, c'est-à-dire qu'au premier projet initial, donc qui était sur 2018-2022, on est venu ensuite mettre derrière de nouveaux projets, donc le projet Odyssée-Île dans un premier temps, 2022-2025, et maintenant il va y avoir le projet OMICI, donc 2025-2027. Voilà. Pour reprendre un petit peu l'historique, en fait, donc moi je travaille donc pour l'Université de Nantes. À l'Université de Nantes, il y a l'Observatoire régional des risques côtiers qui est implanté au sein du laboratoire de géographie, de l'Institut même de géographie. Et en fait, on s'était rendu compte en 2016-2017 que l'Observatoire régional des risques côtiers, finalement, il se préoccupait très peu de l'île Dieu. Ce qui forcément moi en tant qu'insulaire m'avait fait un petit peu bizarre et donc par rapport à l'ensemble de la politique de gestion du trait de côte et de la hausse du niveau marin qui pouvait être menée en région, l'île Dieu c'était un petit peu un angle mort. Alors quand on a regardé tout ce qui avait déjà été fait sur les autres territoires, on s'est dit mais en fait à l'île Dieu est-ce que tout ça pourrait fonctionner? Et très vite, on s'est rendu compte que non, ça pourrait pas fonctionner de cette manière-là, parce que l'île Dieu, c'est une île, et que contrairement à Saint-Jean-de-Mont ou Notre-Dame-de-Mont, c'est un territoire qui est significativement différent. C'est un territoire qui a une commune unique, qui n'appartient pas à une communauté de communes, et donc qui est perçu différemment aussi par les services de l'État. Et puis c'est un territoire sur lequel se croisent quand même des populations très différentes, avec des temporalités très différentes, des gens qui viennent à la journée, à la semaine, au mois, certains mois, pas tous, d'autres qui sont là en permanence, et donc qui ne voient pas le territoire tous de la même façon. Et donc on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on prenne les choses un peu différemment. Et puis dans la mesure où justement l'université s'est peu emparée de la question de l'île Dieu pour l'instant, d'un point de vue universitaire, on n'a pas beaucoup de données. Donc, est-ce qu'on ne peut pas essayer de s'appuyer justement sur l'ensemble de la population de l'île pour aller chercher de la donnée, la traiter scientifiquement, mieux comprendre comment ça fonctionne, et puis ensuite essayer de voir ce qu'on peut faire avec, avec toute cette masse d'informations. Donc le projet Odysseye, dans un premier temps, il avait vraiment cet objectif-là d'essayer de mieux comprendre quelle était la dynamique environnementale autour de l'île-Dieu, quels étaient les mouvements du sable entre la terre et la mer, en mer, comment fonctionne l'érosion côtière, pour ensuite essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire du coup sur ce territoire pour essayer d'atténuer, de s'adapter au changement climatique.
Et probablement déjà de comprendre, mais on va y revenir aussi tout à l'heure.
Évidemment, de comprendre.
De comprendre, ouais. Et de pouvoir renseigner, ce que tu fais très régulièrement tout au long de l'année. Mais encore une fois, on va regarder la boîte à outils et puis après on va rentrer effectivement avec du détail. Donc le premier projet fondateur, c'est donc Odysseye, comme tu viens de le voir, avec sa vocation donc de rassembler des données et de les mettre à disposition et de les traiter d'un point de vue scientifique. Mais là aussi, on y reviendra. Ensuite, l'efficacité d'Odysseye prouvée, c'est Odysseil, comme tu l'as dit, qui va prendre le relais et qui va orchestrer les recherches des quatre îles citées tout à l'heure, avec en objectif donc de croiser les résultats, diagnostics, les scénarios, les solutions de chaque île avec les autres et enrichir un ensemble de données disponibles qui pour co-construire en fait des trajectoires. Avec les acteurs territoriaux, les élus, les citoyens, mais on va y revenir. Et peut-être avant de te relancer avec des questions, c'est intéressant de donner quelques chiffres sur ces territoires, sur ces quatre îles. Par exemple, sur Yeux, nous avons une surface totale de 24 km² pour lesquels 30% est exposé à la hausse du niveau marin, pour une population de 4900 habitants à l'année et à peu près multipliée par 5 en été. Noirmoutier, c'est une surface de 49 km², dont 60% est exposé à la hausse du niveau marin, pour une population de 9500 habitants à l'année, multipliée par 10 en été. À souligner, entre l'île-Dieu et Noirmoutier, le nombre de personnes au kilomètre carré est à peu près identique. Tu disais de l'ordre de 200 à l'année, absolument. Mayotte, une surface de 374 km², dont 15% est exposée, pour une population de 270 habitants à l'année hors immigration clandestine et 55 000 en saison. Et Ouvéa, une surface de 132 km², dont 60% est aussi exposée, la montée du niveau marin, pour une population de 3400 habitants à l'année et pas de pic saisonnier. Donc, après tous ces chiffres, bon, qu'est-ce qui renseigne finalement la banque de données commune, sachant qu'il y a des points communs et des renseignements mutualisables?
Alors, le gros point commun quand même de ces quatre îles, et c'est pour ça qu'on les a choisies au sein du projet Odysseye, c'est avant tout qu'il y avait déjà eu, comme à l'île-Dieu, il y avait eu Odysseye, donc, qui est un programme de recherche collaborative, donc qui intègre les habitants. Et bien, sur Mayotte, sur Ouvéa et sur Noirmoutier, il y avait aussi déjà eu des initiatives citoyennes sur ces thématiques-là. Et notamment une structuration qui était assez proche de la nôtre, c'est-à-dire une équipe scientifique qui s'était rapprochée à la fois des décideurs locaux et à la fois d'associations locales. Et donc, on a essayé de fédérer l'ensemble de ces équipes de manière à ce que chacun continue à travailler sur le territoire qu'il maîtrise et qu'il connaît bien, mais qu'en même temps, tous ces travaux soient un peu coordonnés et qu'on puisse ensuite établir des comparaisons entre ces îles. Alors ça, c'est le premier point commun. Le deuxième point commun, évidemment, c'est que la hausse du niveau marin, elle vaut pour tout le monde. Hein. Évidemment, si ça monte ici, ça monte aussi à Mayotte ou à Ouvéa. Avec la petite particularité quand même pour Mayotte, et c'est aussi ce qui rendait cette île particulièrement intéressante pour nous, c'est que Mayotte, vous le savez, hein, y a un nouveau volcan qui est en train de croître à quelques dizaines de kilomètres au large de l'île de Mayotte. Et donc l'île de Mayotte, géologiquement, elle bascule. Entre 2018 et 2020, il y a une partie de l'île qui s'est enfoncée de à peu près 25 cm. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mécaniquement, le niveau marin sur toute cette partie de l'île, il a augmenté à vitesse forcée, puisqu'il a augmenté de 25 cm en l'espace de 2 ans. Donc là, ça devenait hyper intéressant pour nous parce qu'on avait un espèce de mini laboratoire là pour voir comment la côte sur cette île-là, au moins, elle réagit face à une hausse mécanique du niveau marin rapide. Ensuite, ces quatre îles, elles nous paraissaient aussi très intéressantes parce que justement, elles représentent un éventail très large d'îles françaises. Dans toute leur diversité. Effectivement, comme tu l'as dit, à la fois il y en a des plus grandes, des plus petites, un nombre d'habitants au kilomètre carré qui varie, un éloignement à la métropole aussi qui varie, avec Noirmoutier qui est très proche, qui a une communauté de communes qui rentre bien, assez bien en tout cas dans les cadres juridiques et les dispositifs mis en place par l'État face à la hausse du niveau marin. Et puis après, l'Île-Dieu, Ouvéa, Mayotte, qui s'en dissocient plus ou moins en fonction des situations, en fonction du contexte. Et néanmoins, sur toutes ces îles, il y a des Français et ils ont tous le droit aussi normalement au même traitement. Donc voilà, c'est ce panel d'îles, il nous paraissait intéressant vraiment pour ça.
Absolument, et aussi j'imagine que justement tout ce qui est impact sur l'habitat, sur les infrastructures, sur en plus en détail finalement sur tous ces lieux d'habitation que l'on partage, mais également sur un impact probablement aussi sur l'évolution juridique nécessaire puisque la confrontation de la propriété nationale et de la propriété, enfin je pense au chemin des douaniers historiques par rapport à la propriété privée où finalement cet espace intermédiaire topographiquement parlant n'est plus risque de changer et que juridiquement il y a aussi voire même culturellement comme tu le disais quand on préparait et discutait autour de ça qui peuvent avoir des impacts forts.
Oui, c'est ça. Il y a toujours des spécificités locales. Alors, il y a des grandes constantes. Les stations d'épuration, c'est toujours dans les points bas du territoire, simplement parce que ça fonctionne généralement par gravité. Alors, c'est pas toujours, mais la plupart du temps, et notamment sur les îles, on essaye de les mettre plutôt dans les points bas, parce que comme ça, on collecte tout ce qui vient de plus haut, et mécaniquement, ça descend vers l'aval. Les routes, souvent, on construit des routes côtières, donc forcément, on a là aussi des infrastructures qui sont concernées. Les ports, mécaniquement, c'est toujours aussi proche du niveau marin. Donc y a des points communs sur tous ces territoires qui sont communs en fait à l'ensemble des territoires côtiers. Hein. C'est pas spécifique aux îles. Et effectivement, juridiquement, les îles, elles ont plein de spécificités parce qu'il y a des spécificités d'ordre culturel. Vous n'êtes pas sans savoir que effectivement, du côté de la Nouvelle-Calédonie, les règles sont significativement différentes par rapport à celles qui peuvent s'appliquer sur l'Île-Dieu, par exemple. Même entre l'Île-Dieu et Noirmoutier, il y a des règles qui sont différentes et dans tout ça, il faut que les citoyens arrivent à naviguer, que les municipalités arrivent à naviguer, tout le monde doit naviguer sur les îles.
Que tout se structure, mais on va y venir pour l'agilité nécessaire dont il va falloir faire preuve, mais avant ça, retour sur la grande question, peut-être comment préparer donc l'île au changement climatique, et pour continuer, c'est quoi le changement climatique ? Donc là, je vais donner aussi pêle-mêle un certain nombre de questions pour un peu cerner le sujet. C'est quoi le changement climatique ? Comment se manifeste-t-il ? À quelle échéance ? Qu'est-ce que cela menace finalement ? Est-ce que cela menace le territoire, la faune, la flore, la biodiversité, les habitudes humaines, ou tout ça pêle-mêle est mélangé ? Donc peut-être, qu'est-ce que c'est que le changement climatique, avant d'aborder les points de détail ?
Alors, le changement climatique, je pense que vous en savez déjà beaucoup, parce qu'il y a déjà pas mal d'intervenants qui sont venus vous en parler à ce même micro, il me semble. En tout cas, pour ce qui est des grandes constantes, on va dire, au niveau mondial, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est surtout une incertitude croissante. C'est extrêmement difficile d'établir à long terme ce qui va se passer. On ne sait pas très bien ce qui va se passer au niveau des banquises, on ne sait pas très bien ce qui va se passer au niveau des territoires polaires. Donc, obligatoirement, par voie de conséquence, on ne sait pas non plus très bien ce qui va nous arriver, on ne sait pas très bien si le Gulf Stream va s'arrêter, pas s'arrêter, etc. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le niveau de la mer, il va monter. Ça, c'est une évidence pour tout le monde. Par contre, on ne sait pas très bien de combien. Et puis ensuite, donc, ce qu'on peut voir à l'échelle régionale, ce que nous dit le GIEC régional, c'est que pour l'Île-Dieu et Noirmoutier au moins, et pour l'ensemble de la région, donc, on va surtout vers des saisonnalités, des contrastes saisonniers plus importants, avec des sécheresses plus importantes, des pluies plus abondantes. Et donc par rapport à ça, en fait, on peut commencer déjà à travailler pour s'adapter et effectivement anticiper le fait que c'est ce qui nous arrive dessus, on va dire, dans les 10, 20, 30 années à venir. Au-delà, ça devient quand même très compliqué d'avoir des certitudes.
Alors, on en parlait parce qu'il y a effectivement, pour se rassurer quelque part, encore une fois, il y a une dramatisation du sujet et pour cause, mais en même temps, les choses ont toujours bougé avec du temps long et du temps court. Et une des prudences peut-être à avoir, c'est de ne pas non plus complètement regarder les modélisations comme une science exacte, hein, parce que les modélisations, elles sont faites de plusieurs facteurs plus ou moins tangibles, avec des variables très variables, comme tu le disais à l'instant, et que du coup, par exemple, les mouvements sédimentaires, les mouvements du sable entre nous ici à l'Île-Dieu et le continent, c'est difficile probablement à modéliser, ou en tout cas dans des extrêmes. Donc il y a des outils, mais la fiabilité de ces outils, c'est un point d'interrogation.
Clairement, un modèle, on ne peut pas le prendre pour argent comptant. Il y a effectivement plein de paramètres et si on les bouge un tout petit peu, le résultat donné par le modèle peut varier du tout au tout. Et puis, quand on parle du futur, il y a quand même une variable que les modèles n'intègrent jamais, c'est justement les réactions locales. Quelles vont être les politiques qui vont être menées localement. Et là, on peut faire varier complètement le résultat d'un modèle si on se dit que dans le futur, on va agir différemment. Donc là-dessus...
Alors peut-être pour rebondir là-dessus, tu soulignais quand nous préparions la rencontre, tu soulignais combien c'était important de laisser de la marge dans les prévisions. Et donc de protéger, d'édicter des règles qui vont donner une marche à suivre, mais souvent elles sont faites pour un temps court. Et oui. Toi, je pense que tu es pas forcément de cet avis.
Je suis pas forcément de cet avis-là, effectivement. Si on prend un exemple ici local, au niveau des aires qu'on protège autour de l'île en mer, il y a notamment l'herbier de Zoster. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Les austères sont des plantes aquatiques, ce ne sont pas des algues, ce sont des plantes à fleurs qui forment des prairies comme celle-ci, sous-marines, et qui sont hyper importantes pour l'écosystème côtier de l'île parce que, par exemple, c'est l'endroit où les morgades vont pondre. Donc, s'il n'y a plus d'herbier de Zoster, c'est plus la peine d'essayer d'aller pêcher des morgates à la sablaire, parce qu'il n'y en aura plus, elles pourront juste plus pondre. Alors, l'herbier, il n'est pas à la sablaire, il est juste à côté. Il est entre la sablaire et Carchalon. Il y en a aussi au sapin, il y en a aussi aux conches. Mais c'est un environnement très particulier et très important. Bon, alors, la logique veut que, du coup, on protège cet environnement, effectivement, dès maintenant. Ça c'est très bien. On se dit, ok, les limites de l'herbier à l'heure qu'il est, elles sont celles-ci, donc on empêche les bateaux d'aller mettre leurs ancres à cet endroit-là. Ça fonctionne. Si on commence à se dire que le niveau marin va monter, qu'est-ce qu'il va faire l'herbier ? Il va chercher à se déplacer. Il va chercher à se déplacer et probablement il va se déplacer vis-à-vis de la hausse du niveau marin, mais en fait il y a tout un tas de paramètres qui vont changer avec la hausse du niveau marin, l'hydrodynamique, les bancs de sable qui vont se déplacer, etc. Donc c'est très difficile de prévoir comment cet herbier va se déplacer. Donc la seule chose, la seule certitude qu'on peut avoir, c'est qu'il va essayer de bouger. Et donc si l'herbier va essayer de bouger, il ne faut pas limiter la protection à l'herbier seul, parce que sinon on protège des zones en fait qui ne vont plus avoir d'herbier puisque l'herbier va se déplacer. Donc il faut, en fait, il faut essayer de certainement de protéger beaucoup plus les marges que le cœur de l'herbier, parce que c'est à cet endroit-là qu'il va y avoir des déplacements et c'est ces endroits-là qui vont devenir importants dans le futur. Évidemment, si on applique ça à tous les environnements côtiers ou non, d'ailleurs, hein, là, ça commence à complexifier très nettement les raisonnements, parce que voilà, ça veut dire que finalement, tout peut devenir à un moment donné le point d'atterrissage d'un écosystème en mouvement. Alors, ça complexifie, mais ça rend aussi les choses quelque part très très belles et je pense très positives. Finalement, quand on y réfléchit, par exemple, la fonte d'un glacier, si dramatique que ce soit, ça libère un espace sur lequel il y a de la forêt qui se met à pousser. Et cette forêt, c'est une forêt primaire, par définition. Donc là encore, est-ce qu'on se dit on met des infrastructures partout pour permettre aux gens d'aller voir la fonte du glacier, ou est-ce qu'on se dit au contraire, ben non, c'est cette marge-là, on va essayer de la protéger parce que c'est à cet endroit-là qu'il y a une forêt toute neuve qui est en train de pousser et qu'il faut qu'elle, voilà, qu'elle ait la possibilité de le faire. Et que si nous, on investit ces espaces-là immédiatement, avec les meilleures intentions qui soient probablement, eh ben, en fait, on l'empêche de le faire. On empêche cette nouvelle forêt de pousser. La même chose pour les plages. L'érosion côtière, c'est aussi des nouveaux espaces de plage qui se créent. Mais si on a construit des routes par-dessus, si on a construit... et que tout ça s'écroule gentiment et qu'on ne les a pas retirés en temps et en heure, eh ben, c'est pas une plage qu'on a qui se crée à nouveau. C'est quelque chose de dévasté, mais c'est pas une plage. Donc voilà, donc... tout ça pour dire que finalement, ces évolutions, on peut choisir de les voir comme des menaces, mais on peut choisir aussi de les voir dans toute la beauté de cet environnement qui change. Et que simplement, nous, dans cette histoire-là, on est une partie parmi plein, parmi tout le vivant, parmi tout le minéral. Et que c'est effectivement bien à nous de savoir quand il faut lâcher et...
Et en fait, on revient au mot agilité et le diagnostic aussi d'être dans l'observation et d'être dans l'agilité de prendre des décisions qui correspondent aux situations et non pas des décisions dans l'absolu. Voilà, mais c'est aussi d'avoir un mélange d'anticipation et d'observation de l'instant T et d'arriver à croiser les choses, donc probablement de se parler entre institutions et citoyens et élus pour pouvoir justement travailler et sur le présent et sur le futur, de créer des bonnes pratiques, mais on pourra y revenir. Donc effectivement, de pas être rigide en fait, quelque part, c'est ça.
C'est ça. Constamment observer et se prévoir, même si on met en place des stratégies à long terme, parce que c'est important, prévoir toujours des bifurcations possibles en fonction de comment les choses évoluent. L'agilité.
Tu parlais de la faune et de la flore, mais on peut peut-être préciser aussi une chose, il y a une sorte de croyance commune et de générale. Quand on parle de la hausse du niveau de la mer, on pense à la grosse vague qui va passer par-dessus tout, on va penser aux ports submergés, etc. Mais ce n'est pas forcément ça. En fait, la mer, elle s'infiltre dans les sous-sols. On a des sous-sols qui vont être poreux, qui vont créer des sous-sols qui sont peut-être aujourd'hui où on peut faire du maraîchage, de l'agriculture, etc. et qui vont être salinisés petit à petit. Et puis il y a aussi une hydrographie, ce qui va s'évaporer dans le sud va nous tomber dessus comme avec des pluies fortes, etc. Et donc du coup il y a une hydrographie et les fameuses trames bleues à préserver. Donc peut-être que deux mots sur cette explication. Qu'est-ce que c'est la montée des eaux? C'est pas seulement une vague submersive continue.
Oui, non, clairement, c'est pas une vague submersive, même si ça en fait partie, évidemment. Ce qu'il faut bien voir, c'est que nous, à l'Île-Dieu, on a quand même... un marnage de l'ordre de 4 mètres. Donc la mer, elle monte, elle descend deux fois par jour. Évidemment, il ne faut pas se dire, bah, tiens, avec le niveau qui monte, le port va être submergé en permanence. Non, ce n'est pas ça. Ça va être de temps en temps, le port va être submergé et potentiellement de plus en plus souvent. Et donc, comment est-ce que nous, on s'adapte à ces submersions qui ne sont pas forcément rapides et violentes, qui peuvent être lentes, mais simplement, bah, si c'est deux fois par jour, à un moment donné, ça peut devenir pénible. Donc, ça va être à nous de gérer ça. Et donc, dans cette rythmicité, finalement, l'environnement, là aussi, il sait s'adapter. Les plages, on le sait bien, d'une saison à l'autre, il y a plus de sable, il y a moins de sable. Le sable, il vole sur la dune, ou au contraire, la mer le reprend, le ramène vers le bas de plage, etc. etc. Et donc là aussi, c'est à nous d'adapter les infrastructures humaines pour qu'elle sache réagir face à cette hausse du niveau marin, et aussi de permettre à l'environnement de le faire ce qu'il sait faire. Donc ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle quand même.
Pardon, c'est juste pour monter un tout petit peu le niveau.
J'ai essayé de parler plus fort, ouais. Excusez-moi.
Non, mais voilà, et puis effectivement, sur la transformation et potentiellement de la faune, de la flore, de savoir si on revient à l'île Dieu en particulier, mais c'est là où sur les autres îles, il y a aussi cette analyse qui est faite pour les recroiser, mais de bien être conscient que si on est sur la dune, il ne faut pas commencer à imaginer qu'on va pouvoir planter comme dans le Périgord. On est plutôt sur, donc, du coup, sur la préservation du sable, qu'il faut ouvrir les fossés, les faire curer, etc., pour que justement, il y ait une vraie circulation de tout ça. Bref, de pas camper dans des positions du passé, quelque part, mais d'être réaliste, quoi, quelque part, et de savoir observer sur quoi on est.
Oui, d'être réaliste et puis d'être averti. Et c'est aussi notre rôle, là, nous, en tant que chercheurs, c'est d'aller chercher ces informations-là et de les rendre disponibles, parce qu'effectivement, quelqu'un qui achète maintenant sur l'île Dieu, son jardin, c'est une pelouse, il part du principe que ça a plus ou moins toujours été une pelouse. Sauf qu'en fait, quand on remonte aux cartes anciennes, effectivement, on voit bien que l'île Dieu, toute la frange nord-est, au départ, c'était du massif dunaire. Alors aujourd'hui, le massif dunaire, il y a même des endroits où on le cherche. Si on va à Gilberge, le massif dunaire, on ne voit plus, en fait, on voit juste un enrochement et la route et puis des jardins derrière. Bon, sauf que le village derrière le camping, il s'appelait quand même le village des sables, c'est pas rien. Donc ça fait partie de ces informations qu'il faut qu'on arrive à exhumer et qu'il faut que tout le monde simplement en prennent connaissance et s'en imprègnent de manière ensuite à faire évoluer les pratiques, parce que c'est vrai que de but en blanc comme ça, ça semble pas si évident que ça. Après, quand on se pose un petit peu et puis qu'on analyse les choses, là ça devient très clair.
Alors justement, en subir ou agir, quelque part, ça nous concerne vraiment sur l'île Dieu, comme ailleurs, mais au moins c'est proche. Quel est le rôle du citoyen? Quel est le rôle de la municipalité? Quel est le rôle de l'État? Quel est le rôle scientifique? À chacun sa place, quelque part. Et puis effectivement, quand on est sur des choses très concrètes, c'est plus facile aussi, quand elles sont bien identifiées, plutôt que d'avoir une nébuleuse qu'on tente de dédramatiser, etc. Il vaut mieux être sur du concret. Et à ce propos, tu as créé donc des groupes de travail. Peut-être un mot sur ces groupes de travail.
Ouais. Ça fait partie clairement du rôle du scientifique. C'est effectivement d'apporter de l'information et puis d'animer pour que la diffusion, elle, se fasse le mieux possible, en concertation. Et le rôle des citoyens dans cette histoire-là, il est absolument fondamental, parce qu'effectivement, si les scientifiques donnent l'information mais qu'il n'y a personne pour la recevoir et pour travailler avec eux, bah forcément ça sert à rien, on tape à côté. D'autre part, c'est aussi effectivement hyper important, je crois, et c'est pour ça que nous on a voulu mettre en place cette démarche locale à l'île Dieu, c'est le fait de travailler sur un territoire qui est fini Virginie, qui est petit, que les gens connaissent bien. Parce qu'effectivement, quand on donne des grandes directives européennes, qui ont leur importance, hein, ça va de soi, mais ça ne rend pas les choses concrètes, quoi. Alors que quand on parle de la plage du Marais Salé ou du quartier des Bossies, là, au niveau local, alors forcément, à quelqu'un au Sable d'Olonne, ça parlera peut-être beaucoup moins, mais ici, à Lisieux, ça parle à tout le monde. Donc, c'est certainement comme ça, par le bas, en fait, et par les territoires eux-mêmes, qu'on peut arriver finalement à une action qui soit réellement transformatrice et qui soit réellement adaptée au territoire. Parce qu'effectivement, les grandes directives, après, au niveau local, des fois elles s'appliquent, des fois ça devient beaucoup plus compliqué de les appliquer. Et puis si on ne sait pas trop comment faire, et puis voilà. Donc travailler au niveau local, bien comprendre les processus, bien comprendre. C'est vraiment ce qu'on a vu hein, dans le premier projet, dans Odysseyeux. C'est que finalement, d'une plage à l'autre, en l'espace de 150 mètres ou d'un kilomètre, les processus qui dirigent l'érosion côtière, ils ne sont pas forcément les mêmes. Donc en fait, il faut vraiment faire de la dentelle. Et effectivement, il n'y a qu'une connaissance fine de chaque territoire qui va permettre de trouver les bonnes stratégies pour atténuer d'un côté, laisser faire. Et donc, cette connaissance locale, elle est hyper importante.
Et donc, tu animes en fait un dispositif que vous avez mis en place où on peut s'inscrire en tant que citoyen, qui sont, peut-être que tu veux donner le mode d'emploi un peu.
Alors
peut-être comme ici, cette nouvelle... je ne sais pas si ça va continuer de la même manière.
Alors ça va évoluer un petit peu parce que Omissi, c'est vraiment un projet qui est orienté vers la psychologie environnementale. C'est pas la psychologie environnementale, c'est pas de mettre la nature sur un divan, hein, on est d'accord. Mais c'est simplement essayer de comprendre quels sont les mécanismes psychologiques qui entravent l'action. Donc on va avoir une doctorante qui va faire sa thèse sur cette problématique-là. Mais effectivement, en parallèle, donc je disais, hein, le projet Odysseyeux, il s'est transformé en programme. Et donc il y a des actions de fond qu'on a commencé dès 2018 et qui vont perdurer. Et donc effectivement, là, on a mis en place, on a choisi collectivement, hein, c'est vraiment un choix qui s'est fait collectivement, 4 sites ateliers, donc le Marais Salé, le port, le quartier des Bossies et la pointe de la Gournaise, qui sont 4 sites qui ont des caractéristiques suffisamment différentes les unes des autres, mais qui peuvent servir d'exemple et qui peuvent ensuite être répliquées. Et donc l'idée, c'était vraiment d'essayer de travailler collectivement avec les habitants de ces quartiers ou avec les habitants de Lille simplement qui se sentent investis sur ces sites-là et de travailler à essayer de réfléchir déjà, de diagnostiquer les problèmes, de réfléchir à comment les choses vont évoluer dans le futur sur ces zones-là et puis ensuite à essayer de voir quelles pourraient être justement des solutions d'adaptation qui soient pertinentes encore une fois au regard des contraintes du territoire parce qu'on est sur une île et que faire des travaux ça coûte plus cher. On n'a pas forcément accès à tout le matériel qu'il faudrait, etc., etc. Donc, il faut arriver à s'adapter en fonction des contraintes du territoire.
Et alors, est-ce que par exemple, on parlait des îles qui ont été mises en lien quelque part avec Odysseyeux. Est-ce que les autres îles du Ponant, sont aussi dans un échange d'informations? Ou c'est en dehors des projets là.
Ouais. Alors, pour l'instant, les échanges ils se font essentiellement entre équipes scientifiques. La plupart des autres îles du Ponant, elles sont en Bretagne. Il y a des équipes qui travaillent sur ces îles-là, donc il n'est pas question forcément d'aller marcher sur les plates-bandes des copains. Néanmoins, c'est clair qu'il faut qu'il y ait une dynamique qui s'instaure. Et là-dessus, à Lisieux, on est vraiment en pointe. Et donc forcément on a été déjà interpellé par plusieurs îles. C'est aussi une des raisons qui a fait qu'on avait inclus Noirmoutier dans le projet Odysseyeux, parce qu'à Noirmoutier ils avaient bien vu qu'on avait fait Odysseyeux et ils nous disaient quand est-ce que vous venez nous voir à Noirmoutier. Donc voilà, c'est fait. Et Donc voilà, donc en fait, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place. Moi, j'espère qu'effectivement, on va vers encore plus d'échanges, encore plus de dynamiques inter-îles. Ça me semble avoir vraiment du sens. Maintenant, ben, y a plus qu'à.
Et c'est ça, en fait, tout se fait en parallèle. On n'attend pas que l'État bouge et donne des consignes. On n'attend pas que la municipalité donne des consignes ou que les scientifiques nous fassent des rapports à mettre en place. En fait, tout ça converge. Pour revenir toujours à ce mot agilité, observation voilà, d'avoir une.
Oui, et puis effectivement, les rapports, c'est rarement lu en entier, c'est rarement. Voilà, donc c'est plus intéressant de travailler ensemble. J'ai tendance à penser que les ateliers qu'on a menés là, dans les salles de la Citadelle, c'est à cet endroit-là que ça se joue, en fait. C'est à cet endroit-là qu'on a 30 personnes qui sont en train de réfléchir en même temps, de dire « Ah bah oui, tiens, hier, sur le terrain, on a vu ça, ça implique ceci. » Enfin voilà, et que donc, du coup, tout le monde réfléchit ensemble. Une synthèse toute prémâchée, voilà, aussi bien écrite soit-elle, en fait, ça n'a pas du tout le même impact.
Et puis, ça brasse aussi le fait que c'est une problématique collective auquel il faut donner une réponse collective, et non pas juste parce que j'ai mon jardin qui s'ensable toutes les années, etc. Donc, c'est vraiment aussi on dédramatise mieux. En le mettant dans le pot commun, quoi, quelque
oui,
part.
Oui, on dédramatise mieux et effectivement, on se rend compte que nos problématiques personnelles, en fait, elles s'incluent dans des problématiques de territoire et qu'effectivement, bah, notamment quand on parle d'écoulement de l'eau, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les principaux résultats d'Odysseye, c'est qu'effectivement, bon, on a de l'érosion côtière à l'île-Dieu, la mer est en partie responsable, mais les activités humaines et la pluviosité sont deux facteurs qui, en fait, ressortent comme étant majeurs dans l'érosion de l'île. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que ces deux facteurs-là, on peut avoir une action dessus. Alors après, il faut savoir comment on agit, qu'est-ce qu'on est prêt à faire ou pas. Mais en attendant, on a des leviers d'action. Alors que face à la mer, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et donc, par rapport, pour ce qui est de la pluviosité, bah évidemment, la pluviosité, elle tombe sur les points hauts, elle tombe sur les points bas, et dans les deux cas, elle descend vers la mer. Donc, ce qui se passe tout en haut des bassins versants, ça concerne en fait l'ensemble du bassin versant. Ça va de pair aussi avec la pollution, parce qu'évidemment, si le haut des bassins versants est pollué, ben, ça va gentiment couler vers la mer
tout
et ça va polluer.
Tout,
voilà, tout le monde en profite. Donc tout ça, c'est des choses, je pense qu'il faut qu'on s'y accoutume, qu'on prenne l'habitude de réfléchir de cette manière-là et de bien se rendre compte qu'effectivement, bah, la limite de notre propriété, ça veut dire quelque chose pour nous, mais pour l'environnement, ça ne veut rien dire du tout. Et donc, il faut réfléchir à plus grande échelle.
Alors, l'heure tourne, donc je garde un œil, voilà, mais ça file vite. Et bon, peut-être que avant de prendre les questions, moi j'en ai quelques-unes, mais on va prendre les questions du public. C'est vraiment peut-être pour faire une petite conclusion temporaire, c'est que ce changement climatique et cette montée du niveau marin, c'est pas un sujet d'opinion, c'est un sujet d'analyse partagée. Ça devrait sortir de la zone opinion, en tout cas moi je pense comme ça. C'est aussi une manière de analytique, de mettre rationnel, de mettre de l'ordre dans une cacophonie d'informations qui nous entoure. Et j'imagine aussi les plus jeunes générations, c'est compliqué quand on aborde la vie en général, etc., d'avoir en plus sentir cette cocotte minute du changement climatique dont on parle dans tous les sens. Donc mettre de l'ordre dans la cacophonie des informations, ne pas le traiter comme un sujet d'opinion, mais comme un sujet, là aussi, d'action collective nourrie par les expériences individuelles, quelque part, pour essayer de faire une sorte de résumé avant de passer aux questions. Et toi, tu œuvres en ce sens.
Ben, j'essaie. Non, juste peut-être pour rebondir sur les plus jeunes générations, nous, on travaille beaucoup avec les collégiens. On a mis en place une première aire marine éducative l'année dernière, et puis là on va en mettre en place une deuxième dès septembre. Ça fonctionne très bien. Et les collégiens, moi je crois que en fait le changement climatique, le contexte géopolitique, tout ça c'est des choses, ils le maîtrisent pas forcément, mais ils y sont quand même extrêmement exposés. Nous quand on discute avec eux, on se rend bien compte que finalement ils sortent du cours d'histoire où on leur a expliqué la Shoah, etc., etc. Puis ils passent en cours de biologie et là on leur amène le changement climatique. Et finalement, c'est difficile d'être un collégien à l'heure qu'il est. Et je crois que ce travail sur les aires marines éducatives, le fait de les ramener sur des plages qu'ils connaissent et de leur permettre de prendre le temps de découvrir la biodiversité, le paysage, de comprendre comment tout ça fonctionne, là aussi quelque part ça ramène au local, ça redonne du sens, et c'est un fondamental parce que une fois qu'on a compris ça sur, alors là par exemple sur la plage du Marais Salé qui est la première aire marine qu'on a mis en place, après on l'a aussi compris pour les Sabias, ou on l'a aussi compris pour n'importe quelle autre plage, et on l'a compris pour la vie. Donc en fait, c'est aussi une période de la vie où on a cette capacité de récupérer plein d'informations et de les mouliner dans sa tête, et je crois que c'est une très bonne période pour travailler.
Absolument, moi j'en suis convaincue aussi, et aussi peut-être un mode de transmission, c'est-à-dire redécouvrir la transmission, redécouvrir le lien, redécouvrir aussi des usages, je pense au timbre, la réorganisation de l'eau, l'usage de l'eau, ici à l'Île-Dieu, l'architecture comprend les timbres, ces fameuses réserves d'eau douce, qui était alimenté principalement par les gouttières, enfin par la pluviosité, mais du coup de redécouvrir aussi un petit peu des usages qui paraissent désuets mais qui avaient un grand sens pratique, notamment aussi sur, enfin voilà, je reprends les fossés, etc., et se dire moi quand j'agis sur par répercussion sur beaucoup de choses, et donc du coup de valoriser la transmission et l'explication, comme tu le disais tout à l'heure, l'enseignement et le renseignement et l'information, etc., etc. Mais voilà, je ne sais pas, avant les questions, si tu veux rajouter un point où on se lance.
Comme tu veux, non, si, peut-être juste pour rebondir à nouveau sur ce que tu dis, sur les questions des usages de l'eau, là on a énormément de choses à apprendre de Mayotte et d'Ouvert. Évidemment, c'est des îles où la question de la gestion de l'eau, elle se pose de manière beaucoup plus forte que chez nous. Et des solutions, ils en ont trouvé. Donc, ça vaut le coup de vraiment aller regarder comment ils font et d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut s'adapter ou se réadapter. Parce qu'effectivement, on a eu ces problématiques-là aussi par le passé. Voilà, et faire avancer les
d'échanger,
choses.
Absolument.
Échanger,
absolument. Ouais, échanger. Bon, et à propos d'échange, on va se lancer dans les questions. Voilà, donc on a quelques minutes devant nous pour faire circuler le micro. Alors voilà.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé, pour la gestion de l'exposé aussi. Vous avez cité des chiffres importants en ce qui concerne l'Île-Dieu et Noirmoutier. 10-15% de zones qui pourraient être sous l'eau pour l'Île-Dieu. 40%, non 30, c'était 30, oh là là, et 60 pour Noirmoutier. Ma question est la suivante, quelles hypothèses de température faites-vous? Est-ce qu'on est à 2 plus 2, plus 3, plus 4?
Alors, merci. Les chiffres que Maya a donnés, en fait, on a regardé plutôt d'un point de vue géologique, quels étaient les terrains qui étaient vraiment bas et qui, à n'importe quelle échéance, ou pourrait être impacté. Sur l'Île-Dieu, on parle de 30%. Pourquoi ? Parce que quand on a fait les campagnes de géophysique, on s'est rendu compte, en sondant le sous-sol, que le socle de l'Île-Dieu, sur toute la partie nord-est, en fait, il est extrêmement plat. C'est-à-dire que le paysage, lui, il a plutôt tendance, évidemment, à monter au fur et à mesure. Mais en dessous, le socle rocheux, lui, il est relativement plat, des fois sur plusieurs centaines de mètres. Et ça, c'est un héritage, en fait, d'un ancien haut niveau marin. Alors, difficile de dire lequel, peut-être c'était simplement le dernier il y a 130 000 ans, peut-être c'était un autre avant, mais voilà, géologiquement, on sait qu'on a des terrains qui sont globalement plus fragiles, plus souples, qui risquent plus de partir vis-à-vis de l'érosion côtière et de la hausse du niveau marin sur 30% de l'île. Ça ne veut pas dire que 30% de l'île va obligatoirement disparaître. Ça veut dire simplement qu'ils sont concernés potentiellement. Ensuite, nous, quand on travaille, on se base toujours sur le scénario médian du GIEC. Après, on regarde aussi, évidemment, ce que nous donnent les autres scénarii. Mais notre objectif, c'est pas d'être alarmiste, c'est pas, voilà, c'est simplement d'essayer d'anticiper effectivement les problématiques. Donc voilà. Donc pour l'instant, on se base sur le scénario médian et en termes de température.
En termes de température. Et je voulais vous dire aussi que les cartes du BRGM montrent pas 30% de
alors,
l'île.
Non. Alors ça, c'est exactement ce que disait Maya.
Les BRGM, c'est beaucoup moins.
Bien sûr.
Je les ai regardés encore ce matin. Merci.
Alors, ce qui se passe, c'est exactement la problématique du modèle. Le modèle, les cartes du BRGM, elles sont établies pour l'ensemble de la France. Je rappelle quand même qu'à l'heure qu'il est, la carte géologique produite par le BRGM est disponible. C'est une carte qui doit dater des années 50. C'est encore une carte au 80 millième. On est complètement largué sur la géologie de l'île au BRGM. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que il y a une carte qui est en train d'être refaite par Hervé Dio et ses collègues, mais néanmoins, elle est pas sortie. Donc voilà. Bon, c'est une première chose. Deuxième chose, effectivement, ces cartes, elles fonctionnent vis-à-vis de modèles, et justement, ces modèles n'intègrent pas la géologie. Ils n'intègrent que la topographie. Et donc, effectivement, si on fait monter de 60 cm, admettons, le niveau de la mer, topographiquement, on peut dire, voilà, la mer, elle va rentrer là, elle va rentrer là, elle va rentrer là. Mais ça n'intègre pas les zones qui vont s'éroder et qui vont être modifiées au fil du temps. Voilà. Donc, d'où l'intérêt de travailler, effectivement, à un niveau local et de bien comprendre ce qui est en train de se passer, parce que là, nous, ce qu'on voit au niveau local, effectivement, ça pourrait impacter des zones bien plus importantes que celles prédites par les modèles qui, encore une fois, se basent essentiellement sur de la topographie et pas sur la géologie.
Une autre question ? Est-ce que... Alors...
Merci. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur l'impact du changement climatique sur la direction du courant autour de l'île Dieu, leur puissance aussi, et leur impact par conséquence sur le mouvement de sable, sur la faune et la température de l'eau?
Alors, ça va être plus qu'un mot. Bon, encore une fois, on sur chacun de ces paramètres-là, on a des incertitudes qui sont énormes. Ne serait-ce qu'effectivement sur l'élévation du niveau de la mer, en fonction de ce qui va se passer au pôle, aux deux pôles, on va avoir des évolutions qui vont être vraiment potentiellement très différentes. Évidemment, ça va avoir aussi un impact sur l'évolution de l'hydrodynamique et des courants. Parce que si le niveau de la mer il monte de 4 mètres, ça ne va pas être les mêmes modifications des courants que si on monte que de 10 cm. Bon, j'enfonce des portes ouvertes, mais comme ça c'est clair pour tout le monde. Ensuite, par rapport à la hausse des températures, évidemment, ça va aussi avoir des impacts sur la biodiversité parce que nos crevettes, elles sont pas forcément habituées à avoir 24 degrés, une eau à 24 degrés pendant tout l'été. Ça veut pas dire que c'est dramatique non plus. Il y a un certain nombre d'espèces pour qui ça ira très bien. Il y a d'autres espèces qui vont venir du sud parce qu'elles commenceront à se plaire. Et puis, les espèces qui étaient ici et qui se plairont plus, elles vont se déplacer. Là encore, on est sur les marges qui bougent. Hein. On est vraiment là-dedans. Maintenant sur ce qui va se passer à l'île Dieu spécifiquement, bien malin qui est capable de dire concrètement comment les choses vont se passer, parce que en fait tout change en même temps et avec des vitesses qui sont pas les mêmes pour toutes les espèces, qui sont pas les mêmes pour tous les... Voilà. Après par contre il y a des constantes, le niveau de la mer avec les marées, il monte, il descend, voilà, ça on peut le calculer. Il y a des choses qu'on peut calculer quand même, heureusement.
Ça rejoint, pardon, ça rejoint aussi ce sur quoi on peut agir en termes d'activité humaine. C'est-à-dire qu'il y a une accélération globale, il y a un mouvement global, mais ça de tout temps. Il y a toujours eu des tempêtes, il y a toujours eu. Mais par contre, notre accélération, celle qu'on impose, c'est aussi celle sur laquelle on peut être levier, peut-être, je ne sais pas.
Oui, l'accélération qu'on impose, mais aussi notre propre résistance. Parce que encore une fois, effectivement, on peut décider que les changements, on les voit comme des menaces et essayer de les empêcher et de s'en prémunir. Ou au contraire, on peut se dire bon bah ok, ça se fait. Donc comment est-ce qu'on accompagne ça pour que ça nous embête pas trop, mais en même temps que ça puisse se faire quand même. Et là-dessus, en fait, je pense qu'on a vraiment tous un travail à faire parce que c'est pas l'habitude qu'on a eue sur les 200 dernières années. Globalement, on est toujours parti du fait que l'homme est plus fort que la nature et qu'on va construire des grands murs, etc., etc. Puis bon, voilà, aujourd'hui, ça nous rattrape un peu et on a ce chemin à faire psychologiquement. Et ce qui justifie aussi justement le prochain projet, hein, c'est comment est-ce qu'on arrive à parler à tout le monde de ces problématiques-là et à faire ce chemin chacun de là d'où on vient et avec le bagage qu'on a.
Ouais, trouver d'autres réflexes. Une autre question.
Bonjour et merci. Bonjour. Ok, une fois qu'on a fait le chemin et qu'on est bien conscient de tout ça, concrètement, au quotidien, moi j'habite à Lille-Dieu, je fais quoi ? Parce qu'en fait, c'est ça.
Alors ça, la première des choses, je pense que vous pouvez faire, c'est de venir dans les ateliers, pour travailler sur les sites ateliers et justement voir en fonction des cas de figure quelles sont les adaptations possibles. Si on veut donner des exemples concrets sur les quatre sites ateliers qu'on a. Bon, on a le marais salé. Effectivement, là, le diagnostic qui a été fait en atelier, c'est que bon, le massif dunaire du marais salé, il a été amputé il y a longtemps, probablement au 19e siècle. On a prélevé le sable du massif dunaire et on s'en est servi pour construire probablement la citadelle, les forts côtiers, des maisons certainement. Donc il y a un déficit de sable à cet endroit-là et c'est très clair. Hein, quand on regarde dans la topographie, en fait, c'est pratiquement à angle droit. Donc déjà, on a un sujet là-dessus. Ça veut dire que notre massif dunaire, en fait, il est moins efficace que ce qu'il devrait être. Donc comment est-ce qu'on fait pour agir sur ce massif dunaire et essayer de lui rendre un peu sa force? Donc on peut le protéger face à la mer, donc là il y a certainement, enfin, on peut envisager au niveau municipal de replanter le massif dunaire avec des plantes dunaires qui sont capables justement de récupérer le sable quand il vole et pas de le laisser passer trop en arrière. Et puis on peut agir ensuite sur les endroits où justement il manque du sable pour essayer de faire en sorte qu'il capte le plus rapidement possible un maximum de sable et donc que le massif dunaire se remplume. Ensuite, si on va encore plus vers l'arrière, là on a des maisons qui ont été construites dans des zones qui sont extrêmement basses, qui commencent à être de plus en plus souvent impactées par des inondations. Alors, pour l'instant, heureusement, pas des inondations marines, pas des submersions, parce que justement le massif dunaire, il fait encore son boulot. Après, on ne peut pas complètement éluder le fait que peut-être un jour il le fera plus correctement. Ces maisons qui ont été construites là, on peut aussi les adapter pour que effectivement les inondations du marais, qui sont des inondations a priori plutôt naturelles, hein, un marais c'est fait pour accueillir l'eau de pluie qui vient du haut du bassin versant avant qu'elle parte à la mer, on peut faire en sorte quand même que ces maisons effectivement elles soient plus adaptées et qu'elles soient moins impactées quand il y a des inondations. On peut aussi agir plus haut dans le bassin versant pour faire en sorte que justement l'eau, quand elle arrive, quand elle tombe massivement, elle n'arrive pas trop vite dans le marais salé et qu'elle ait le temps de commencer à s'évacuer et que donc les inondations soient moins fortes. Donc en fait, des leviers d'action, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Maya, il faut avoir une vision générale de la chose parce que finalement, les gens qui ont des problèmes d'inondation dans le marais salé, ils ne sont pas que responsables. Ils sont, en fait, c'est l'ensemble de tous les gens qui ont des propriétés dans le bassin versant, plus des parcelles agricoles, plus de la gestion municipale des écoulements. Et en fait, on peut agir partout. Mais après, par contre, il faut effectivement travailler sur l'ensemble du bassin versant, bien diagnostiquer où sont les points où on peut s'améliorer et le faire. Et donc ça, ça fait partie des programmes qu'on a lancés avec le comité de développement agricole, justement pour essayer de décortiquer un peu comment fonctionnent les différents bassins versants de l'île. Dans un premier temps, on s'est attaqué à celui du Marais Salé parce que c'est le plus grand. Donc c'est celui qui touche a priori le plus de monde. Et donc justement, ça m'amène à aussi la construction la mise en place d'un parlement du Marais Salé. Et donc qui est une espèce d'extension hein, des premiers ateliers qu'on a eus sur ce site atelier-là. Mais l'idée, c'est d'arriver à rassembler l'ensemble des riverains du bassin versant du Marais Salé. Donc, c'est-à-dire aussi les gens qui habitent aux Martinières, par exemple. Parce que les eaux, quand la pluie elle tombe à Martinières, finalement, elle atterrit dans le Marais Salé. Et donc, arriver à rassembler l'ensemble des personnes qui sont parties prenantes dans ce bassin versant et à les faire dialoguer pour que, justement, tout le monde comprenne quelles sont les implications et comment les choses s'organisent et que chacun, du coup, comprenne ce qu'il peut faire, lui, à son niveau, sur sa parcelle ou juste à côté, en discutant avec ses voisins.
Il y avait une question par là, je crois.
Merci. Bravo pour la présentation, Elsa. Merci.
Merci.
Tu as parlé tout à l'heure, en fait, de rapprocher la science et la société civile. C'est exactement ce que tu évoquais à l'instant. Je voudrais aller déjà à l'étape suivante, qui est de rapprocher la science et la société professionnelle. Et à ce propos, donc je vous en informe tous, a été créé extrêmement récemment une association qui s'appelle l'Amiral de Joinville. Alors nous avons le président de cette association, Monsieur Fabien Dulon, qui est juste derrière, que vous pourrez aller interviewer tout à l'heure. Mais je crois qu'il peut être intéressant, Elsa, si tu veux bien, comme tu es aussi la cheville ouvrière de cette association, si tu peux expliquer en quelques mots ce à quoi on joue, je crois que ça sera intéressant pour tout le monde. Merci.
Oui, merci Michel. Alors, donc, l'amiral de Joinville, je précise le E à la fin d'amiral parce qu'il est important, sinon vous ne nous trouverez pas sur Internet, tout simplement. C'est donc une association qui est un peu, c'est comme ça que je le vois moi, un petit peu le pendant du comité de développement agricole, mais pour les questions maritimes. Et donc qui effectivement vient de se créer sur l'île, avec pour objectif de créer un pont entre les activités maritimes, que ce soit les activités de pêche, plaisance et pro, ou les activités de transport ou autres, et justement l'université et la science qui peut se faire sur le territoire. L'idée étant d'arriver en mettant tous les acteurs du maritime autour de la table, d'essayer d'identifier quelles sont les problématiques qui se posent aujourd'hui, et de voir comment scientifiquement on peut contribuer à y répondre et comment on peut y répondre depuis le territoire, c'est-à-dire justement par exemple si les professionnels disent cette question-là nous on n'arrive pas à y répondre, mais si on arrivait à y répondre ça nous aiderait beaucoup dans notre activité, à ce moment-là voir comment scientifiquement on peut s'emparer de la question et comment est-ce que tous ensemble on peut arriver à y répondre pour faire avancer l'ensemble du monde maritime. Donc là pour l'instant il y a quatre grands axes qui ont émergé justement des discussions avec les professionnels. Il y en a d'autres qui vont émerger. Je ne sais pas, est-ce qu'on a le temps d'en dire un mot? Ou peut-être, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous voir, Fabien, Michel ou moi, avec plaisir.
On peut dire ça. Donc effectivement, comme ça, on peut prendre encore une question. On va prendre deux questions. On va prendre deux questions.
Bonjour Elsa.
Bonjour.
En fait, suite à la question de Michel Bourgery, j'ai envie de savoir juste quel est ton lien, toi, de pour ton travail, toutes tes recherches, tous les résultats, tout ce que tu as envie de mettre en place entre toi et la municipalité. Voilà, quel est ton pouvoir d'action, d'écoute, par rapport à la municipalité, parce que quand même la municipalité peut mettre en place des règles, peut donner des directives aux citoyens, peut imposer aussi par exemple le curage des fossés aux citoyens, peut vérifier si les fossés ont été curés, dans les propriétés privées aussi, parce que c'est quand même aussi dans les propriétés privées que ça se passe. Quel est ton moyen d'action à toi? Et ensuite j'avais une deuxième, je te la poserai.
Bon,
réponse très courte pour prendre.
Alors, je pense que c'est sont des actions qui sont complémentaires. On a la chance, je crois vraiment, d'avoir toujours eu une écoute bienveillante de la part de la municipalité depuis qu'on a créé, depuis qu'on a mis en place Odysseye. Et c'est vraiment un accompagnement et une écoute qui se perpétue et qui se renforce au fil du temps. Après, la municipalité, elle a ses temporalités, elle a ses propres, ses propres problèmes et ses propres contradictions. Mais néanmoins, je crois qu'effectivement, comme le disait Maya tout à l'heure, on a la chance que ce ne soit pas vraiment un sujet qui fasse polémique. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut faire quelque chose. Personne ne sait forcément bien par quel bout prendre les choses. Et tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut travailler ensemble. Maintenant, c'est important qu'effectivement, au fil du temps, les collaborations elles se renforcent et qu'elles gagnent en efficacité. Pour l'instant, c'est croissant, c'est clair. Ça va dans le bon sens. C'est pas encore totalement efficace. C'est pas que de la faute de la municipalité. Et donc voilà, on travaille là-dessus avec Carole Charouot et Béatrice Chal notamment. Et puis dans le futur, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, c'est une mécanique qui est longue à mettre en place, mais qui fonctionne quand même. Ça peut paraître un peu sous-marin, mais en fait, il y a plein de choses qui se passent. C'est discret, mais ça se passe quand même.
Et en tout cas, vous faites l'effort d'avoir toujours des restitutions régulières. Donc ça, c'est aussi à nous d'être attentifs pour les suivre et y participer.
Là-dessus, n'hésitez pas à faire des propositions. Parce que nous, on essaye de faire des restitutions. On essaye toujours de choisir des moments où on se dit tiens, si on le fait à ce moment-là, peut-être on va arriver à toucher un maximum de gens, ou si on fait sous ce format-là, ça va parler aux gens. Mais peut-être qu'on passe à côté aussi d'opportunités. Et donc n'hésitez pas à nous dire tiens, là, ça serait peut-être bien de faire quelque chose à ce moment-là ou sous ce format-là. C'est vous en tant que public qui savez mieux ça.
Alors, compte tenu de l'heure, je pense qu'on ne va pas pouvoir prendre des questions supplémentaires, mais par contre, il y a tellement de choses encore à dire, etc. Donc, effectivement, peut-être si tu as quelques instants après cette rencontre, on peut prendre des questions et puis trouver un moyen de faire la restitution à une autre occasion. En tout cas, Elsa, bravo, merci et merci pour ce travail extraordinaire que tu fais et qui nous tient en haleine et qui nous fait participer toute l'année. Voilà.